Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète ? Une émission aujourd'hui un peu spéciale parce qu'elle n'est pas présentée par Pierre-Alain Gourion mais par moi-même, Suzanne Le Maréchal, et à la co-animation, Madeleine Pochon.
Bonjour.
Bonjour Madeleine. Habituellement en technique son, elle est aujourd'hui parmi nous pour l'animation.
On m'a donné la parole.
Alors aujourd'hui, on a une table ronde exclusivement féminine pour parler d'écologie, pour parler de féminisme et pour parler d'écoféminisme. Nous avons Anne-Lyne Gandon.
Oui.
Donc, qui a fait une thèse en 2011. Les représentations sociales du développement durable, des enjeux de sexe et de genre.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oula, parler de ma thèse. Oui, bah en fait, c'était un doctorat qui portait sur le développement durable, qui à l'époque était un concept qui arrivait avec beaucoup de force dans le débat public et qui était porté par des politiques de collectivité territoriale dans lesquelles on inscrivait notamment l'agenda 21. Et le Grand Lyon était précurseur en la matière.
Donc, l'agenda 21.
L'agenda 21, c'est ce qu'on fait concrètement pour traduire le développement durable, qui est une notion qui est quand même assez étanche à comprendre comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait en pratique et notamment dans les collectivités territoriales? Et donc, ça se traduisait dans un agenda 21 en un certain nombre d'actions. Voilà. Et donc le Grand Lyon était extrêmement précurseur en la matière. Et donc j'ai eu le plaisir de pouvoir faire cette thèse au Grand Lyon, donc très clairement financée par le Grand Lyon, sur en plus précisément les enjeux de sexe et de genre. Voilà. Donc ça c'était le cadre. Et donc dans la pratique, c'était en fait de voir d'un point de vue théorique comment on pouvait intégrer les relations de sexe et de genre, donc les rapports de pouvoir, etc., dans le développement durable, et comment on pouvait les traduire, du coup, dans les politiques territoriales. Voilà.
Et les mettre en valeur, du coup.
Les mettre en valeur, en parler, les promouvoir, se rendre compte que comme d'habitude, sous un aspect, sous la neutralité d'un concept, le développement durable, il y a en fait des rapports de pouvoir. Donc moi, j'ai abordé sous un rapport de sexe et de genre, mais il y a les rapports nord-sud, les rapports habituels de pouvoir, sous couvert de développement durable, qui pouvaient être étudiés. Voilà.
Très bien, on reviendra pour parler un peu plus en détail de l'écoféminisme notamment. Nous avons également Elisa Chantreuil.
Oui, bonjour.
Bonjour Elisa, vous travaillez pour Conscience et Impact Écologique ?
Oui, exactement, donc ou CIE pour les intimes. On est une association d'éducation à l'environnement et à l'écologie politique. Donc on aborde tout ce qui va être sujet de société, sujets environnementaux, avec un prisme de l'écologie politique, c'est-à-dire qu'on va essayer de relier les enjeux entre eux. Donc si on parle par exemple, de déchets, on va certes parler du fait que le plastique, ça pollue l'environnement, les océans, mais on va surtout parler du fait que ça vient du pétrole, que c'est une ressource rare et limitée, qui engendre des problèmes de géopolitique dans le monde, que les déchets sont évacués vers d'autres pays. Et là encore, problème sanitaire, problème géopolitique. Voilà, on va essayer vraiment de faire les liens. Donc on n'est pas des naturalistes, on n'est pas sur la biodiversité. On va vraiment être sur l'aspect politique des problèmes.
Et donc, d'accord. Et vous avez organisé en avril des conférences, il me semble.
C'est ça. Et donc, on organise chaque année en avril un événement qui s'appelle The Planet Needs You. Donc là encore, une fois, en 2020, l'événement aura lieu autour du 13 avril, si je ne me trompe pas, c'est un week-end. Et donc, on essaie de varier un peu les conférences, les ateliers, les animations lors de ce week-end-là, parce qu'habituellement, on intervient sur 13 thématiques fixées, on va dire, et généralistes. Là, on est un peu sur des sujets transversaux et on va aborder des notions comme l'écotourisme ou bien l'écoféminisme.
Donc la dernière fois, vous avez pu parler d'écoféminisme déjà?
Oui.
Et chaque année, c'est des thèmes différents? Ou alors vraiment...
Les thèmes peuvent être différents. Là, on est en train de préparer une nouvelle conférence sur les liens entre écologie, animalisme et anarchie. Par contre, l'écoféminisme ayant rencontré un grand succès l'an dernier, on va certainement le reproduire encore cette année. Voilà, parce que c'est... un sujet qui est d'actualité avec le fait qu'on met en avant beaucoup les inégalités femmes-hommes, les féminicides aussi, et en même temps on met en avant également les problèmes environnementaux. Donc ce sujet, il a tout à fait son sens en ce moment, et d'autant plus que dans les assos environnementalistes, comme dans les assos animalistes d'ailleurs, on est sur du 80% de femmes parmi nos adhérents et nos bénévoles.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet bien d'actualité, comme vous l'avez dit, avec les féminicides qu'on entend parler, ou des mouvements comme Nous Toutes, qui sont de plus en plus connus, et en tout cas qu'on voit de plus en plus. Il y a aussi un mouvement, on va dire plutôt une association qui s'appelle Alternativa, Action Non-Violence Rhône. Est-ce que Élise Le Breton, qui est également présente, pourrait nous en parler, puisqu'elle est militante, il me semble,
oui,
pour cette association?
Tout à fait. Donc, moi, je suis militante depuis un peu plus d'un an à Alternativa ANV Rhône. Donc, l'association, son message, elle porte des messages concernant la justice climatique et sociale. Donc, c'est vraiment créé autour de la question climatique, mais en voulant le lier aussi au maximum aux enjeux sociaux. Et habituellement, on dit que l'association, elle marche sur deux jambes, celle de la promotion des alternatives et celle de la résistance, dans l'idée qu'il faut à la fois, dès aujourd'hui, créer le monde de demain, mettre en place des vraies façons différentes de vivre sur nos territoires. Et en même temps, il faut aussi s'opposer, par exemple, de l'action non violente ou de la désobéissance civile, ou des projets destructeurs ou à des politiques qui sont totalement aberrantes par rapport aux enjeux actuels écologiques.
Et vous êtes rapprochée un peu du mouvement écoféministe grâce à une formation?
Alors, donc personnellement, je viens plutôt, je suis presque plus militante féministe. En tout cas, j'ai peut-être été encore plus consciente des problèmes féministes avant les problèmes écologiques, dans mon cheminement personnel. Et il se trouve que oui, dans Alternativa ANV Rhône, on n'a pas aujourd'hui de campagne écoféministe en tant que telle, même si c'est des sujets qu'on aborde, et la question du sexisme aussi, de qui est dans l'association, qui prend la parole, comment, où, quelle image on donne à l'extérieur aussi, et quelle place on donne aux femmes, c'est des questions qu'on se pose. Mais il y a eu, je pense que la question arrive de plus en plus dans les groupes locaux ou nationaux, puisque c'est un collectif citoyen, donc en fait, il y a des collectifs qui peuvent se monter partout. Et quand on s'est retrouvé cet été à un camp climat en Alsace, donc ça a duré 2 semaines, je crois, justement, qui est organisé par le réseau national, plus les Amis de la Terre, enfin, d'autres associations. Il y avait des formations, dont une sur l'écoféminisme, donc qui essayait de faire le lien, mais qui était pour le coup plutôt une introduction avec une femme qui était doctorante aussi dans les questions de genre et qui avait travaillé sur ce sujet-là. Et qui avait le but de la présentation était de faire un peu émerger des idées de qu'est-ce que seraient des revendications écoféministes pour notre mouvement et quel type d'action aussi. Et aussi revoir tout l'historique qu'il y a derrière, en fait, se rendre compte que là, peut-être ça... En tout cas, je trouve que depuis peut-être 2-3 ans, on commence à en parler beaucoup plus que quand, par exemple, j'ai commencé à m'intéresser au féminisme il y a peut-être 5-6 ans, 7 ans. Mais on voit que ça arrive sur la table, mais qu'en fait, c'était déjà des choses qui ont été faites depuis plus longtemps dans d'autres pays aussi.
Justement, vous parlez d'historique. Est-ce que, par exemple, Anne-Line, vous pourriez nous faire un rapide topo historique de l'écoféminisme? Comme ça, après, on pourra, en sachant de quoi on parle, développer plus le propos.
Bon, c'est pas évident de faire un historique de l'écoféminisme parce que comme on le sent, comme ça vient entre les lignes quand on en parle, c'est un mouvement qui est terriblement hétérogène. Donc ça déjà, je tiens à le dire en introduction, c'est qu'on n'est jamais exhaustif quand on en parle parce que c'est un mouvement qui n'est pas qui est pas officiel et qui n'a pas d'orthodoxie. Donc c'est très compliqué d'en parler en disant le cadre c'est ça, il faut s'inscrire dans ce cadre. Donc déjà, je prends toujours la précaution de le présenter comme ça. Après, si on refait l'historique, quand on voit la littérature qui porte sur l'écoféminisme, tout le monde s'accorde à dire que c'est Françoise d'Aubonne, donc une écrivaine française, qui a la première, on va dire, mis un socle théorique dessus pour expliquer que il y avait une analogie à faire entre le système d'exploitation qui menait à la destruction de la planète et le système d'oppression qui était mis en place contre les femmes par les hommes.
Et ça, c'était en quelle année ?
Donc ça, on est dans les années 70, hein, on est après 68. Voilà, c'est très clair. Et donc ce courant, il est, et ça c'est la deuxième chose qui est très importante pour moi toujours de resituer, c'est que l'écoféminisme de Françoise d'Aubonne, du moins, il est à la réunion du féminisme de Simone de Beauvoir, dont elle était une des amies proches, puisqu'après elle a écrit sa biographie, et l'écologie politique... qui se construisait à l'époque c'est pas un hasard si cette écologie politique elle a en partie été écrite par un psychologue social qui s'appelle Serge Moscovici et donc de dire que l'écologie politique elle dit que la nature elle n'existe pas en elle-même, c'est une représentation sociale que l'on s'en fait et dont on parle, voilà. Donc quand on parle d'écoféminisme, on ne parle pas d'une une naturalisation de la nature ou d'une naturalisation des femmes, d'accord ? C'est-à-dire que quand on assimile les femmes et la nature, on ne les renvoie pas à un statut de nature toutes les deux.
Quand vous parlez du féminisme de Simone de Beauvoir, pour les non-avertis, est-ce que vous pouvez un peu expliciter ?
Le féminisme de Simone de Beauvoir, alors là, il faut vraiment reprendre tout. J'espère que je vais réussir à être claire. Mais la réunion des deux, de l'écologie politique et du féminisme de Simone de Beauvoir, permet justement de proposer aux femmes une émancipation qui s'inscrit dans autre chose que le modèle d'émancipation masculin. C'est-à-dire que la grosse critique qui a été faite à Simone de Beauvoir, et donc c'est comme ça que je vais en parler, c'est que en gros, elle dit que les femmes doivent prendre leur part du gâteau et que les femmes sont des hommes comme les autres. Hein, grosso modo, c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, et qu'il n'y a pas d'autre émancipation possible pour Simone de Beauvoir que de questionner, par exemple, l'enfantement comme quelque chose qui nous renvoie à la nature et donc quelque chose qui est plutôt préjudiciable aux femmes, la maternité, etc., etc., et que la seule façon de s'émanciper, c'est de transcender la nature, donc quelque chose qui est assez marxiste, hein, en fait, hein, voilà, de transcender la nature et donc de s'établir contre elle. Et donc ce qui est intéressant quand on unit ça à l'écologie politique, c'est de dire attention, l'idée de nature dont on parle dans la philosophie contemporaine en France, c'est une construction sociale masculine qui vise à en faire une sorte de chose inerte, l'objet de transformation des hommes et l'objet de profit des hommes. Voilà. Et donc en fait, la nature, c'est pas ça. La nature, c'est une construction sociale. Voilà. Et donc, pour moi, la force de l'écoféminisme, c'est de pouvoir dire aux femmes, attention, vous faites partie de la nature, mais les hommes aussi, hein, petit h. Et il y a une autre façon de transcender cette nature et de s'émanciper de cette nature que de s'inscrire contre elle, mais de pouvoir progresser avec elle. Voilà. Donc j'espère que c'était clair, mais c'est pour moi, c'est toute la force de l'écoféminisme, c'est de pouvoir et en fait de l'écoféminisme aussi pour les hommes, hein, petit h, c'est-à-dire de pouvoir progresser, de faire une société progressiste qui s'inscrit autrement que contre la nature, puisque la nature n'existe pas.
Donc la nature serait d'accord. Donc la nature serait une construction.
est une construction sociale.
Une construction sociale.
Voilà. Et que cet argument éternel, que du coup, peut-être qu'on va en parler un peu plus dans la pratique, ce que Moscovici appelle du zoomorphisme, c'est-à-dire de penser la société sur un modèle animal, c'est-à-dire, par exemple, de dire que la famille, c'est un homme et une femme, parce que la nature nous montrerait comme modèle que ce modèle, un homme, une femme, est un faux argument, parce qu'en fait, la nature n'existe pas. On ne peut pas dire la nature nous contraint à progresser sur un modèle familial hétérosexuel, on ne peut pas le dire, puisque ça n'existe pas, c'est une construction sociale. Voilà. Le modèle du fort sur le faible, toutes ces choses-là, donc, qui sont préjudiciables aux femmes et aux faibles en général, enfin, à ce que la société a rendu faible en général. Voilà.
Très bien. Et Élise, vous qui avez fait cette formation, vous avez entendu le même discours. Est-ce que tout le monde tient le même discours sur l'écoféminisme ou est-ce qu'il y a aussi plusieurs définitions? Qu'est-ce qu'on vous en a dit?
Je crois que justement, comme l'a rappelé Annie, la première question, c'était le fait que c'est un mouvement très divers, en fait, qu'on va avoir des courants qui peuvent paraître s'opposer. Enfin, déjà, c'est en fait, je pense, une caractéristique du féminisme. Enfin, on dit, vaut mieux dire les féminismes que le féminisme, souvent, quand on voit tous les courants qui existent. Et c'est vrai que ce qui était, je pense, une chose qui était sortie qui était mise en avant, c'était l'idée de base derrière l'éco-féminisme. C'était que, justement, voilà, il y avait que une double liaison entre la femme et la nature qui était faite dans notre façon de penser, à la fois de naturaliser les femmes, enfin voilà, de considérer qu'elles sont plus proches de la nature, en fait, par exemple l'enfantement, les règles, que parfois ce soit aussi un moyen de les décrédibiliser, qu'elles sont pas rationnelles, qu'elles sont dans le sentiment, qu'elles sont, voilà, et que tout ça, c'est ce côté très plus animal, en fait, de la femme. Et qu'en face de cette projection-là qu'on fait sur les femmes, on projette aussi une femme sur la nature, en parlant de la terre, enfin, la mythologie, la terre Gaïa, la terre nourricière. Donc parfois, ça va être plutôt positif, hein, si on voit ces images-là. Mais on voit aussi que c'est un moyen de la même manière qu'on va considérer qu'on peut exploiter les femmes, on va pouvoir exploiter la nature. Et je crois que ça réunit vraiment la pensée écoféministe. Mais je me rappelle aussi, que parfois ça a été une critique qui a été faite de justement quand on pense plutôt aux discours féministes qui veulent déconstruire les notions de genre, de dire l'écoféminisme ça pousse en fait à de nouveau essentialiser la femme, en refaire une identité et je pense que ça, en effet dans les discours ça peut être délicat mais quelque part c'est peut-être aussi une force du mouvement qui arrive à réunir des gens qui ont aussi des conceptions assez différentes du genre. Une amie qui me disait ça, elle se sentait écoféministe, qui disait sa sœur l'est aussi, mais elle-même était dans une démarche très, plutôt questionner le genre, et sa sœur était beaucoup plus dans une démarche très essentialiste, mais il trouvait aussi un moyen d'émancipation en disant ce lien entre femme et nature, j'ai envie de le célébrer, et je pense que c'est quelque chose de profondément positif. Donc, je pense que ça montre bien qu'en fait, on parle d'un sujet qui est assez immense et... Ouais. Extrêmement complexe.
Effectivement, peut-être que Elisa Chantreuil, avant de passer à une petite pause musicale dont on va en avoir besoin pour bien ingurgiter tout ça, avant de passer à autre chose, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter à ce qui vient d'être dit.
Tout à fait. Déjà au niveau des influences du milieu écoféminisme, quelque chose qui n'a pas été cité mais qui est pourtant assez mis en avant par ces milieux-là, c'est aussi les sorcières. C'est-à-dire que les premières femmes entre guillemets qui se sont émancipées d'une part des hommes et de la société dans laquelle on leur demandait de vivre. Donc souvent c'était des femmes qui vivaient un peu en retrait du village ou du lieu dans lequel elle résidait et en même temps qui était donc célibataire et qui refusait d'avoir un homme pour leur dicter leur vie a priori. Donc des femmes qui étaient émancipées du clergé, des hommes et qui étaient également très proches de la nature et donc qui avaient beaucoup de connaissances en herboristerie, ce genre de choses. Qui ont été du coup passées pour des sorcières, donc des personnes à détruire parce que sur lesquelles on n'avait aucune, on pouvait pas avoir la main sur elles. En fait, on pouvait pas décider de ce qu'elles allaient dire.
Il n'y avait pas de mainmise sur.
Voilà. Et donc elles allaient décrédibiliser le clergé en essayant de proposer d'autres remèdes que 25 Ave Maria si vous avez un début de gangrène. En même temps, elle faisait un peu peur à tout le monde parce que il y avait déjà un gros mythe de la castration aussi à cette époque-là. Hein. Quand on regarde les récits à l'époque du Moyen-Âge, bon, c'est une époque très large, mais il y a déjà à ce moment-là, donc sur le mythe de la castration, le mythe que les sorcières, donc ces femmes-là, allaient couper le pénis des hommes du village pour les mettre dans des nids et les nourrir avec de l'avoine, par exemple, voilà. Pour en faire des animaux de compagnie.
Ah d'accord.
Voilà. Donc on voit qu'en fait ces luttes-là sont vraiment très liées, parce que quelqu'un qui sait utiliser la nature hors du système. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, on pourrait le comparer, par exemple, aux industries pharmaceutiques, par exemple. Et ben, c'est quelqu'un qui va faire peur. Et si, en plus, c'est une personne qui s'émancipe de la pensée dominante et donc du patriarcat, ben, là, c'est doublement effrayant, on va dire.
C'est ça. Mais justement, on va pouvoir parler après une pause musicale des actions et de ce qui existe aujourd'hui avec des actions écoféministes. On va s'écouter Midnight Oil, Beds Are Burning, un choix de Annelise Gandon. Annelise. Pourquoi ce choix ?
C'est un choix, oui, parce qu'il est. Vous m'aviez demandé une chanson qui illustrait l'écoféminisme. Alors, à ma connaissance, j'en connais pas. Voilà, j'avoue mon ignorance. Mais par contre, je trouvais que cette chanson, qui est. C'est un groupe australien, en fait, qui a écrit il y a déjà 30 ans une chanson qui dit comment est-ce qu'on peut continuer de dormir alors que nos lits sont en train de brûler. Et donc, j'ai trouvé que c'était malheureusement d'actualité. Voilà. Pour illustrer les incendies qui sont en ce moment en Australie.
Eh ben, on écoute. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time back.
Alors, on a fait un état des lieux de l'écoféminisme d'hier et d'aujourd'hui, mais on n'a pas parlé encore de l'activisme qu'il génère. Quand j'ai fait les recherches pour préparer l'émission, j'ai trouvé beaucoup d'exemples qui montraient que c'était très lié au mouvement, que le mouvement s'ancrait vraiment dans un activisme. Donc on peut citer Françoise Daubonne qui, en 75, a dynamité la pompe du circuit hydraulique de Fessenheim qui a retardé la mise en action de la centrale nucléaire. Bon, elle l'a pas fait toute seule, elle l'a fait avec un groupe, mais voilà. Il y a aussi le mouvement SHIPCO en Inde, qui est un mouvement de femmes qui a empêché l'abattage d'arbres voulu par le gouvernement dans des villages de l'Himalaya, qui s'est déroulé entre 73 et 80. Et puis... on peut aussi citer les Women's Pentagon Action en 80 aux États-Unis, des rassemblements de milliers de femmes devant le Pentagone pour protester contre la course à l'armement nucléaire et qui s'est illustrée par des rituels, des chants, des danses. Est-ce que pour vous aussi, c'est très prégnant dans le mouvement écoféminisme, ces activismes?
Par exemple, et d'ailleurs pour rebondir un peu sur la question des sorcières, justement c'est aussi une imagerie qui est beaucoup utilisée dans l'activisme écoféministe, et si je me trompe pas, pendant les manifestations c'était contre la loi de travail, j'ai un doute, où il y a eu justement un groupe de féministes à Paris, je sais plus, c'est les Witch, j'ai un doute sur leur nom, mais qui justement étaient plutôt féministes, plutôt de tendance anarchiste, et qui jouaient justement sur la question des sorcières. Et il y avait des slogans du type Macron au chaudron, et elles jouaient sur cet imaginaire-là, justement.
J'ai vu ça, moi.
Je crois que c'est...
C'est pas pour les grèves, plutôt, peut-être?
Justement, je sais plus quand. Enfin, c'était Wicca. Un moment.
Non, Wicca, c'est aux États-Unis.
Ouais, enfin, je sais qu'aux États-Unis, c'est assez... c'est Starhawk, si je me trompe pas, une écrivaine... Qui elle, oui, travaille, enfin, est un peu une référence dans la côté, enfin, je pense, écoféminisme et axé très sorcière, justement, qui vraiment, et puis à cette idée de déconstruire les récits, enfin, vraiment de, assez spirituel derrière. Mais je sais que beaucoup, en fait, je crois que beaucoup d'activisme écolo-féministe a été autour des questions nucléaires en Occident. En France, je sais aussi autour de la militarisation aux États-Unis. Après, aujourd'hui, je connais peu d'actions écoféministes revendiquées en tant que telles en France, en tout cas.
Alors, j'avais vu, ça doit être en septembre ou en octobre, à Bure, il y a eu tout un rassemblement écoféministe pour protester contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc, ça a été assez peu relayé dans les médias mainstream, mais j'en avais entendu parler. Donc, peut-être que ça continue sous cet aspect-là aussi.
Mais du coup, Élise Le Breton, vous avez fait une formation. Qu'est-ce qu'on entend du coup par formation? Est-ce qu'on vous a formé? Parce que je sais que par exemple Alternativa fait des formations contre la non-violence, enfin pour la non-violence plutôt, les actions non-violentes qui apprennent à comment gérer les policiers par exemple lorsqu'on fait des actions, etc. Est-ce que pendant cette formation écoféministe, on vous a aussi appris à être écoféministe, à faire des actions écoféministes?
Alors je pense que c'était un peu le but, enfin, en fait c'était la première fois qu'ils faisaient cette formation et c'était un sujet tellement nouveau qu'il fallait déjà le mettre sur la table, et je crois, et c'est aussi très intéressant de voir qu'il y avait une large majorité de femmes dans la salle, alors que je suis pas sûre que sur le camp climat soit forcément, ça doit être prééquilibré, que les gens comprenaient même pas forcément pourquoi il y avait une formation écoféministe. Enfin, faut voir que on essaye nous de porter ces questions-là, mais c'est pas toujours très évident dans le mouvement écologique, écologiste, les questions féministes. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'était plutôt, enfin, elles auraient eu l'ambition peut-être de nous faire aller jusqu'à construire en principe une action écoféministe, mais là on n'a pas eu le temps, enfin c'était donc une matinée de formation, et c'était plutôt le côté historique, enfin essayer de faire comprendre que les racines sont communes, enfin voilà, nommer le capitalisme patriarcal, enfin voilà, nommer les causes et voir qu'elles sont liées ensemble, les exploitations sont liées. On a eu quelques exemples justement d'actions qui étaient faites à l'international ou historiques. On a eu aussi l'exemple, le mouvement Alternativa vient du Pays Basque, au départ c'est un mouvement qui s'appelle Bizi, qui milite là-bas et qui a un peu lancé la dynamique en fait au national de créer ces collectifs locaux. Et eux, je sais qu'ils avaient cette revendication, par exemple, qui était tournée autour des femmes âgées, autour de la retraite des femmes. Parce que voilà, et en liant justement à la fois les problématiques de travail, donc peut-être l'écologie au travail, et aussi l'inégalité face au travail entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'était un exemple de revendication qu'on peut porter. En termes d'action, hélas, on n'a pas eu le temps de pousser jusque-là.
Vous étiez encore à la période théorique.
Voilà,
enfin,
je pense que
peut-être pour cette année.
Voilà, le public était assez divers, donc je pense qu'il y avait des gens qui découvraient le sujet, d'accord, et d'autres qui étaient peut-être plus avancés, mais c'était compliqué de faire émerger ça. Mais là, en ce moment, en tout cas, avec, parce qu'on se mobilise avec Alternativa NV autour de la question des retraites, et c'est vrai que la question, on peut le lier à l'écologie sur la question de qu'est-ce qu'on, pourquoi on travaille, comment, pour produire quoi, et en même temps dire, et en plus, ce qu'on promeut comme système de travail et de retraite, et ben, ça va pénaliser encore plus les femmes qui sont déjà dans des situations précaires. Donc voilà, ouais, il y a ces liens-là qu'on peut voir, alors c'est pas forcément traduit par des actions, mais en tout cas qui sont faits dans les discours qui peuvent être portés.
Porter un discours. D'ailleurs, Elisa Chantreuil, vous avez fait une formation d'arboriste.
Oui, exactement.
Il me semble. Est-ce que, d'une certaine manière, s'intéresser à la nature, comme on le disait, notamment pour les sorcières, est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, une action militante?
Si, tout à fait. Et justement, c'est une manière de s'émanciper aussi de deux manières. Parce que d'une part, ça permet de s'émanciper des industries pharmaceutiques et essayer de comprendre mieux le corps humain, comprendre mieux la nature et comment soigner le corps par la nature. Donc après, dans ma formation, ce qui était relativement... Enfin, un petit peu décevant, c'est qu'on était 90% de femmes. Donc, on se rend compte encore une fois que c'est les femmes qui ont cette charge morale, en fait, de faire vivre le foyer de manière, comment dire, de manière écologique, de manière saine. En gros, elles vont avoir la charge de se dire, il faut que les choses se fassent bien sur le long terme, quoi. Donc, du coup, là, on peut relier au mouvement féministe, parce que justement, c'est du temps qui a été gagné par les femmes au cours de l'histoire, avec l'arrivée de l'électroménager notamment. Et finalement, quand on revient au tout fabriqué maison, et la femme repère énormément de temps, voire même peut-être plus que ce qu'elle avait gagné à la base.
Est-ce qu'une formation d'arboriste, c'est ça, c'est fabriquer maison?
C'est ça. On revoit vraiment toutes les bases de nutrition, tout le fonctionnement du corps humain et également des notions de chimie très poussées au niveau des plantes, parce que il faut comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a dans la plante, comment ce composé-là réagit sur le corps humain. Parce que, en fait, toutes les plantes que l'on utilise en herboristerie, elles sont toutes médicinales, mais elles sont toutes toxiques. Donc c'est vraiment très important de comprendre que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Mais pour ça, faut s'y connaître quand même un minimum en corps humain, en biologie et en chimie, sinon on risque de faire des boulettes et c'est quand même pas le but d'aller se tuer en voulant se soigner, quoi.
Mais on voit ce mouvement revenir beaucoup, hein, les huiles essentielles. Après, on voit aussi que on nous fait la guerre, entre guillemets, on fait la guerre à l'homéopathie, par exemple, avec les nouvelles lois, je sais pas si vous en avez entendu parler. On se rend compte qu'en fait, on nous empêche presque de vouloir se débrouiller seul, ou en tout cas d'une manière naturelle. Et donc, du coup, les femmes essayent de s'émanciper, mais encore une fois, on revient finalement peut-être aux sorcières de l'époque, où c'est nous, maintenant, en utilisant des huiles essentielles et de l'homéopathie, qu'allons nous faire, peut-être pas brûler sur un bûcher, mais j'espère pas, en tout cas. Et Anne-Lise, est-ce que vous faites Anne-Lise. Ça aussi vous...
Oui, alors, non, mais c'est pas grave. Je suis habituée. non, mais du coup, je vais rebondir, mais vraiment très rapidement, parce que j'aimerais accentuer sur un autre sujet, mais effectivement, vous l'avez souligné avant, le gros risque de l'écoféminisme, quand même, dans le langage quotidien, c'est de retomber sur des problématiques qui enferment les femmes dans des problématiques ménagères qui n'ont jamais de fin, c'est-à-dire les couches lavables, les yaourts maison, le pain maison, le four solaire, etc., etc. Donc ça, c'est l'enfer. Donc il faut vraiment essayer de élever le débat écoféminisme au-delà du foyer, même si ça fait partie de la vie. Et moi, je suis la maman de deux enfants et je peux vous dire qu'on a vite fait d'y retourner dans une trajectoire personnelle. Enfin, je veux dire, moi, je suis confrontée à ça au quotidien, de faire des choix. Dans les actions, alors c'est peut-être pas forcément des actions, mais en tout cas, ça contribue à l'éveil des consciences. Tout ce qui est psychologie environnementale, l'éco-psychologie, aboutit à des questionnements qui étaient complètement inédits il y a 20 ans. Du genre, comment est-ce que les hommes et les femmes jouissent de l'espace public? Hein, comment est-ce qu'on peut penser que c'est aberrant de soutenir des projets associatifs comme les Baba Yaga qui ont voulu monter des maisons de retraite à l'usage de femmes devenues veuves et donc qui vivent aussi plus longtemps, on le sait. Donc ça, ça a été perçu comme une tentative de vol quasiment par les femmes de fonds publics parce que c'était un usage purement féminin de fonds publics et que ça choque personne de construire des stades de foot. Et on est à Lyon et vous voyez très bien de quoi je veux parler, qui sont à usage, on va dire pour rester faible, 90% masculin. Donc voilà, tout ça c'est très important en fait. Et ça c'est de la psychologie environnementale, c'est où est-ce que vont les fonds publics, etc. etc. Et c'est peut-être pas de l'action, c'est pas des manifestations dans la rue, etc. Mais c'est quand même une façon, il me semble primordial de s'interroger sur... le système social, ce qu'on fait ensemble, etc. Et donc, quand on se pose toutes ces questions, on s'aperçoit que, encore une fois, l'argent public, en fait, bon, voilà, en fait, il n'est pas, en fait, dans les usages, tout le monde n'en jouit pas de la même façon, etc., etc. Et donc, c'est quand même très important. Et on peut étendre aussi ces questions. Il faut en parler, même si je trouve que c'est toujours un peu casse-figure, mais tout ce qui est effectivement de la médecine. Qu'est-ce qu'on fait du corps des femmes dans leur parcours tout au long de leur vie, que ce soit quand elles ont un cancer du sein, quand elles accouchent, etc. On est confronté maintenant à des problématiques qui vont devenir cruciales quand vous tombez enceinte et que vous choisissez la façon dont vous voulez accoucher. Encore en France, on reste relativement libre parce qu'on a un système de santé qui reste quand même relativement solide. On ne se rend pas compte que tout autour de nous, les femmes accouchent sous césarienne programmée. Et donc ça, on sait que tout ça est hyper dommageable pour les femmes, pour les bébés et pour l'évolution, on va dire, de l'espèce humaine en général. Je veux dire, c'est pas juste juste les femmes. Et donc ça, pour moi, c'est des questions écoféministes qui sont essentielles. C'est-à-dire que là-dessus, il faut que les femmes, elles se positionnent.
Et voilà. Quand vous dites que en France, on a encore le choix de la façon d'accoucher, je sais aussi que, enfin, on a pu avoir des témoignages de condescendance et de jugement de la part du personnel médical quand les femmes expriment leurs envies de mener leur grossesse de telle ou telle façon. Mm-hmm. Il y a, même si on a une liberté, un jugement qui est quand même assez fort, j'ai l'impression, de la part d'un corps médical qui est quand même
masculin.
C'est très bien parce que ça nous fait une belle introduction pour la dernière partie qu'on va faire justement sur comment vivre l'écoféminisme au quotidien, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans nos vies, où est-ce que vous en êtes, notamment avec les enfants. Avant d'arriver sur ce gros bloc, on va passer à une pause musicale de Guédré, une chanson qui s'appelle « Pisser debout ». C'est un choix de Elisa Chantreuil. Alors, pourquoi ce choix rapidement avant de passer à la musique?
Moi, j'aime beaucoup aborder les sujets importants par le prisme de l'humour, en fait. Et je trouve que Guédré est une femme qui le fait très, très bien, une artiste qui le fait très bien. Donc, voilà.
C'est super.
Ça parle un peu de ça.
Eh ben, on écoute.
Si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Susan Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, ouh, ouh, pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginales. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non. J'irais plutôt me taper des putes à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Oh si j'étais un homme, si seulement. Si seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout. J'aimerais tellement pisser debout. Pisser debout.
Donc voilà, Pisser debout de Guédré. Ça se prononce comment d'ailleurs ? Guédré ?
Guédré, ouais.
Guédré. Donc Pisser debout, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Enfin, pas nous, mais les hommes. Mais en parlant de tous les jours, et comment ça s'applique à votre vie quotidienne d'être écoféministe ou d'être écologique ou d'être féministe ? Comment on fait pour vivre avec tout ça et toute cette charge morale dont on parle justement ?
Alors, qui se lance
n'importe qui veut prendre la parole. Bah, allez, Elisa Chantry.
Déjà, au quotidien, nous, dans le milieu associatif, on voit qu'il y a une surreprésentation des femmes dans notre association, mais c'est le cas dans la plupart des associations, comme je disais tout à l'heure, écolo ou animaliste. Nous, déjà, on est assez déçus de ça. Non pas qu'on veut à tout prix avoir 50-50, enfin, on veut avoir juste des gens qui ont envie de s'engager là-dessus, mais on se rend compte que les hommes, pour eux, ça reste encore loin, les problématiques environnementales. Du coup, encore une fois, ça repose beaucoup sur les femmes.
Et comment on explique ça ?
Et c'est l'éducation, de tout simplement le fait que le pouvoir, voilà, le pouvoir social, le fait que tout au long de l'éducation d'une petite fille, on lui apprend à jouer avec des poupées, on lui apprend à prendre soin. Donc elle doit, dès toute petite, on est conditionné à prendre soin des plus faibles, les gens qui nous entourent, ou voilà, donc les bébés, les animaux. Il y a beaucoup de petites filles qui veulent plus tard avoir un cheval et prendre soin de lui, que les petits garçons, ils veulent être astronautes, quoi. Donc c'est des métiers plus égoïstes auxquels on va conditionner les garçons. Donc on va leur apprendre à plutôt, si t'as un problème, il faut pas que tu sois une fillette, il faut pas que tu pleures, il faut que tu t'affirmes souvent par la violence et par les actes plus égoïstes et individuels. Donc mine de rien, tout ça, c'est un conditionnement social qui se ressent tout au long de la vie, hein, donc jusqu'à la fin de vie.
Est-ce que ça a un rapport également avec peut-être les enfants? Le fait de faire un choix, d'avoir des enfants, de pas en avoir, de la manière de... Je sais que Anne-Line, vous avez des enfants. Waouh.
Non.
Mais du coup, ça a été un choix. Est-ce que ça aussi, c'est une charge en plus morale, plus que vous le ressentez pour votre compagnon ?
Non, mais déjà, pour reprendre, on peut peut-être repartir avant de retomber dans le foyer, parce que moi, ça me fait toujours un peu peur, mais je vais en parler un petit peu quand même s'il faut. Mais la question climatique, elle est genrée, en fait. C'est ce que j'aurais peut-être dû un peu plus développer sur l'éco-psychologique, c'est que la question de qui pollue sur Terre, en fait, elle est genrée. C'est-à-dire qu'on sait que c'est les hommes qui polluent. C'est pas D'accord. les femmes,
Donc ça,
déjà.
On le sait, y a
non,
des...
mais déjà, on peut partir de ça. On peut partir du fait que dans les usages quotidiens, les hommes ont des plus grosses voitures, roulent plus avec, mangent plus de viande, voyagent plus. Enfin,
j'ai patron homme.
Oui,
que
voilà.
Femme,
en fait, j'ai plus les statistiques en tête, mais les hommes, en fait, sont responsables du changement climatique et pas les femmes. Donc voilà. Et donc toute la question de Simone de Beauvoir, dans quelle forme de féminisme on s'inscrit. Simone de Beauvoir, elle aurait tendance à nous dire, s'émanciper, c'est polluer autant qu'un homme. Et donc toute
c'est
la
ce
force.
Ce que j'allais dire, est-ce voilà. que finalement, si les femmes avaient la même place que l'homme, voilà. est-ce qu'elles ne pollueraient pas pareil?
Ben, c'est ça. Donc toute la force de l'écoféminisme est, ok, moi ça me tente de m'émanciper évidemment et de ne plus être seconde sur Terre mais de devenir première, mais est-ce que je veux aspirer à cette première place sur le podium si l'objectif c'est d'avoir une grosse voiture qui pollue, de partir en voyage en avion tout le temps et de bouffer les ressources de la planète aux dépens des gens qui souffrent, eux, de ne pas en avoir assez pour survivre, on peut y répondre par la négative. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Comment est-ce que ça peut se traduire dans notre quotidien de femme occidentale, parisienne, blanche, etc., donc qui a tout le morphotype de la classe sociale dominante à l'échelle de la planète, c'est pas évident parce qu'on peut évidemment faire certains choix. Donc moi j'ai fait le choix d'avoir deux enfants, hein, c'est très clair, j'avais envie d'avoir des enfants. Il y a des femmes qui choisissent de se faire stériliser, hein. Maintenant il y a des mouvements qui sont très forts là-dessus. J'ai vu des interviews de femmes qui moi me semblent très très loin de moi, qui choisissent très jeunes, à 20 ans pour certaines, de se faire stériliser pour être sûre de ne jamais revenir sur cette décision de ne pas avoir d'enfant, ce que je trouve moi hyper dur. Enfin franchement mais elle se disait écoféministe comme moi je peux me dire écoféministe.
Oui, après chacun le vit de sa
voilà
de
et
sa
c'est ce qui fait la complexité de d'être écoféministe. Et bon bah je sais pas, moi dans le quotidien ça va être faire certains choix sur les vacances, faire certains choix d'éducation pour les enfants.
Et ça, vous sentez une différence entre vous et votre compagnon?
Ah bah moi la différence elle est radicale avec mon compagnon si vous voulez qu'on parle de ça, mais là on n'aurait pas assez de temps.
Mais
évidemment que la charge mentale elle est exclusivement féminine. Enfin moi dans mon cas, si on parle de mon couple, il y a des couples où ça se passe j'espère différemment, mais effectivement, mais bon moi je fais les choix, je pense que comme toute personne écolo ferait, c'est-à-dire on essaye de pas créer de déchets, de manger le moins de protéines animales possible, voire pas du tout. Le Père Noël à Noël, on essaye de faire en sorte qu'il soit rationnel et pas qu'il parte trop, en live. Mais voilà, ça va être ça dans mon quotidien. Après, on fait des choses qui vont au-delà de nous. En soutenant des choses, en faisant des choses au-delà de nous. Mais c'est vrai que dans le quotidien, vraiment à notre échelle individuelle, c'est...
On essaye de faire au mieux, quoi.
Voilà, on essaye de faire au mieux.
Élise Le Breton, vous avez des enfants?
Non, mais c'est pas prévu. En tout cas, pour l'instant, c'est pas au programme. Mais je pense que ce qui est important, justement, dans ce qu'on disait en termes de choix, je pense que c'est ça qui est très... à la fois dur et intéressant en tant que féministe, écologiste et écoféministe, c'est que on est un peu toujours en tension là-dessus, puisqu'il y a, par exemple, le fait de, élever vers du zéro déchet, vers des choix de mobilité moins carbonés, etc. C'est quelque chose qui libère, enfin, d'une certaine manière, ça nous met en cohérence avec nos idées, donc c'est très fort. Mais je vois aussi que, et c'est aussi flagrant, par exemple, dans mon entourage, que les filles prennent beaucoup plus ça à cœur. Alors, pour la mobilité ou le fait de manger de la viande, pas tellement. Par contre, par exemple, pour le côté zéro déchet, c'est très flagrant. Et c'est assez dur, parce qu'en fait, il y a ce côté de, c'est bien quand je reprends un peu de la un certain pouvoir sur ma vie aussi, de décider comment je consomme, quoi, etc. Mais c'est aussi beaucoup de temps, de l'argent, enfin, c'est une dépense importante. Et je vois j'en parlais justement avec des amis qui se questionnent là-dessus, garçons, et qui, ils me disaient, mais quelque part, ils trouvent ça chouette de voir ces filles qui s'impliquent autant. Puis ils disent, mais ils pensent à tous ces mecs qui polluent sans en avoir rien à faire. Et ils disent, ils doivent dire, ils sont bien contentes que ces idiotes, elles se débrouillent avec leurs trucs bio. Moi, je pollue et voilà. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a plus de mal en tant que femme aussi à avoir le lâcher prise, de se dire. Donc ça, c'est un truc, je pense, qu'on apprend tout le temps. Et certes, par écoféminisme, on va se dire, je veux faire plein de choses. Mais c'est aussi qu'on peut apprendre à ne pas faire les choses en se disant, enfin, essayer de ne pas porter la responsabilité tout le temps sur nos propres épaules, parce qu'on a beaucoup plus tendance à le faire que les hommes, et qu'en fait tout ce temps et cette énergie qu'on investit, c'est positif, mais c'est aussi par du temps et de l'énergie qu'on investit, qu'on peut pas forcément investir, peut-être à changer la société,
ou à voilà, à réussir à vraiment jouer sur les rapports de force, quoi, parce qu'on sait bien que les petits gestes individuels, ça a une forme de, ça peut se diffuser, et ça a un impact qui est pas négligeable, mais on sait que si on veut un changement de large échelle, il faut prendre une autre place dans la société. Et si on passe son temps à faire des courses en vrac tout le temps, à courir partout, faire des couches lavables, eh ben on n'a pas ce temps-là.
Bien sûr, ouais. C'est... Il nous reste malheureusement très peu de temps pour finir l'émission. J'aimerais bien qu'on finisse l'émission, notamment par rapport au changement climatique et le rapport sur la Terre en règle générale et sur toutes les populations. En quoi les femmes sont plus touchées que les hommes? En quoi est-ce qu'on voit une si grande différence? Et après ça, on aura une dernière pause musicale et malheureusement, ce sera l'heure de nous quitter. Donc, Elisa Chantreuil.
Ok. Alors, en fait, le problème aujourd'hui avec le défi climatique auquel on fait face, c'est que c'est un problème qui est donc environnemental, mais qui est aussi d'ordre social. C'est-à-dire que ce sont les pays du Nord qui polluent le plus et les pays du Sud qui en souffrent le plus. Donc partout dans le monde, on sait aujourd'hui qu'on est dans une société patriarcale, et forcément les populations les plus pauvres des pays les plus pauvres vont encore une fois être les femmes, et donc c'est encore elles qui vont en pâtir le plus sur le changement climatique, d'autant plus qu'elles ont souvent des vêtements moins pratiques, elles ont moins accès à l'éducation, elles ont des tâches du coup domestiques qui vont avoir du coup si elles ont moins de ressources, c'est elles qui vont devoir ensuite se débrouiller pour l'alimentation, pour l'eau, s'il y a des problème de pollution d'eau, et que ce sont les femmes qui vont au puits chercher l'eau, c'est encore elles qui vont être impactées. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de femmes aveugles dans le monde que d'hommes, parce que le fait de porter des vases d'eau sur leur tête pour pouvoir les ramener jusqu'au foyer pendant que les hommes sont au champ ou ailleurs, et ben ça va leur briser dans les yeux, et donc elles vont avoir beaucoup plus de problèmes de cécité visuelle. Voilà, donc tout ça, ça a un impact sur les femmes majoritairement, parce que ce sont elles les plus précaires. Et pour terminer avec le défi climatique, on s'apprête à avoir entre à peu près 500 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici moins de 100 ans, avec le manque de terres arables, de ressources et la montée des eaux à laquelle on fait face. Et on le sait, aujourd'hui, à chaque problème de migration de masse, mouvement de population, encore une fois, les premières personnes touchées vont être les femmes, parce que les hommes s'accaparent les ressources alimentaires, parce que les hommes aussi se servent du viol comme arme de destruction massive, de manière pour la psychologie des personnes qu'ils essaient de soumettre. Voilà,
ne serait-ce que pour
un
ça.
Un avenir qui donne très envie.
Voilà.
Et voilà,
ne serait-ce que pour ça.
Bon, malheureusement, tout n'est pas dit, mais on a décidé un choix d'Élise Le Breton, d'une chanteuse qui s'appelle Camille, qui s'appelle Tout est dit. On espère qu'on aura plein d'autres choses à raconter une prochaine fois, mais on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'être venus.
Merci.
À toutes.
Merci.
Surtout.
J'ai tout dit, j'ai terminé ma phrase. Tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre. Tout dit, tu veux que l'on se parle. Tout dit, oh ma sœur Hildegarde. Tout dit, je suis, le bruit, des oiseaux dans les arbres. Tout dit, j'ai tout dit, j'ai fui à la hussarde. Tout dit, j'ai tout dit, et les rats m'ont suivi. Tout dit, tu as peur pour ma vie. Tout dit, oh ma sœur Hildegarde. Tout dit, je suis, le bruit, de la pluie dans les arbres. J'ai rompu le charme. Tout dit, j'ai tout dit. Thank you.
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.